Comment était Jésus de Nazareth? C'est un homme incroyable. Il n'a pas fait de grandes études. Il n'a jamais rien laissé par écrit. Son ministère a duré seulement 3 ans. Il n'a jamais prêché dans un autre pays. Et même comme ça, il a eu tellement d'impact que ça a changé le monde. Si on avait 3 ans pour changer le monde, on allait investir dans quoi? Lui, il a investi tout son temps, ou la majorité de son temps, en 12 hommes. Très simple, d'ailleurs. Quelqu'un aurait dit, tu as 3 ans pour faire ce que tu as à faire et tu traînes avec ceux-là. Il y aurait d'autres à choisir. Il est mort très jeune, mais son message est resté. Ses disciples ont été persécutés, mais le message est allé chaque fois plus loin. L'impact a été tellement grand que des vies sont encore transformées aujourd'hui, tellement d'années plus tard. Il change notre manière de penser, il nous fait voir notre condition humaine, il questionne, il montre un amour sincère, il nous rapproche de Dieu. Mais comment était ce Jésus de Nazareth? Si la question est au niveau physique, il y a eu plusieurs tentatives de le représenter. Par exemple, la version classique que vous allez voir. Voilà, c'est celle que tout le monde a en tête, je pense, quand on pense à Jésus. Il y a la version les yeux bleus. Il y a la version recherche scientifique. La BBC, elle a fait une recherche avec des archéologues, puis ils ont analysé les squelettes à l'époque de Jésus, à cet endroit-là, les squelettes, donc les ossements de visage. Et ils ont imaginé que le visage de Jésus pourrait ressembler à quelque chose de ce genre. Voilà, donc, la recherche scientifique. Il y a la version francophone. C'est JC, ça s'appelle la série, une petite série. Il y a des épisodes qui peuvent être drôles, il y a des épisodes sans manque de respect. Il faut trier. Il y a la version du moment, c'est celle que je préfère de Jésus, The Chosen. Et puis, il y a la version moderne faite par une intelligence artificielle que j'ai programmée pour qu'il fasse un Jésus très moderne. Et puis, ça a donné ça. Jésus dans une ville moderne. Georgie nous a récemment lu un texte d'Ésaïe où on nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bon, physiquement, on ne peut pas vraiment savoir comment il était. Probablement aucune de ces images qu'on a vues ne se rapproche de la réalité de qui il était. Mais sa personnalité et son caractère, si. Ça, on peut découvrir comment il était. Et là, le caractère, oui. Aujourd'hui, on va parler sur le fait qu'il était un homme remarquablement authentique. C'était un homme pleinement lui-même. Et ce côté était très attirant pour certains et très dérangeant pour d'autres. On voit l'attirance qu'il avait de ce côté de sa personnalité, dans par exemple Zachée, ce collecteur d'impôts qui a voulu monter sur un arbre pour voir Jésus, il avait envie, il était attiré par Jésus. On voit dans la femme de mauvaise réputation qui pleure sur les pieds de Jésus et qui essuie les pieds avec ses cheveux. On voit dans les pêcheurs au bord du lac qui étaient là en train de travailler et quand Jésus passe et leur dit « Suivez-moi », ils n'ont pas hésité. Ils sont allés directement, ils ont tout lâché, ils ont suivi Jésus. Il y avait une espèce d'attirance. On voit dans la foule qui venait l'écouter, Jésus attiré. Physiquement pas, mais dans sa personnalité, dans son caractère, dans qui il était, il y avait quelque chose là de remarquable qui attirait les gens à lui. En même temps, beaucoup de fois, vraiment beaucoup de fois dans la Bible, on voit que Jésus dérange parce qu'il est qui il est. Quand ça dérangeait, les gens pensaient des choses du genre, s'il est prophète, pourquoi il ne s'habille pas comme un prophète? Par exemple, comme Jean-Baptiste, d'ailleurs, s'habillait vraiment bizarrement. S'il était un docteur de la loi, pourquoi il ajoutait toujours la loi dit ceci? Mais moi, je vous dis cela. Pourquoi il ajoutait le « mais moi, je vous dis cela » Pourquoi, s'il était docteur de la loi, pourquoi il ne se conformait pas simplement à ce qui était marqué dans la loi? S'il était un homme religieux, pourquoi il était l'ami de personnes qui ne respectent pas les commandements de Dieu? Pourquoi il mangeait avec eux, il buvait avec eux? Il devrait s'éloigner d'eux s'il était un homme religieux. Donc, en même temps qu'il attire, il dérange par qui il est. Et si on le compare avec son cousin Jean-Baptiste, on voit vraiment son originalité. Le peuple d'Israël avait passé plusieurs siècles sans prophète, et quand Jean-Baptiste apparaît, il avait vraiment l'aspect d'un prophète de l'Ancien Testament. Il s'habillait avec poils de chameau, une ceinture de cuir, Il mangeait des chips de sauterelle. C'était un gars bizarre. Pour ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, tandis que Élie, je le compare à Gandalf, Jean-Baptiste me fait penser à Radagast, un mage brun qui est dans la forêt, très bizarre. Et puis en plus, Jean-Baptiste, il semble toujours fâché quand il est en train de parler. Il est toujours irrité, il me semble. La seule chose qui m'attire chez lui, c'est qu'il mangeait du miel. Et tout d'un coup, il y arrive Jésus, et il prend tout le monde de surprise. Bon, quelquefois, il était dur aussi, il était très direct aussi, quand il voulait dire quelque chose, comme Jean-Baptiste. Mais ce qui frappe, encore une fois, c'est comment sa personnalité attirait les gens. Il se réjouissait de passer du temps avec les autres. Il mangeait et buvait des choses bonnes de la vie. Les enfants étaient à l'aise avec lui. Je doute que ce serait le cas avec Jean-Baptiste. Mais avec Jésus, les enfants étaient attirés à lui. Les riches et les pauvres voulaient le voir. Ils étaient enchantés avec la possibilité de l'avoir chez eux, s'asseoir à table avec lui. Il était très accessible. On ne pouvait pas être indifférent devant qui il était. Le contraste entre les deux était si grand que les disciples de Jean-Baptiste sont venus lui demander une fois. Les disciples s'approchèrent en Matthieu 9 et lui demandèrent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne le font pas ?» C'est une bonne question. Et Jésus leur répondit « Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le marié est avec eux ?» Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Jésus était une personne très différente, avec une personnalité différente et surtout une mission très différente. Une des craintes de ceux qui sont à la recherche de spiritualité, c'est de se dire que s'ils s'ouvrent à Dieu, ils vont devoir devenir comme ce type de chrétien ou comme cet autre type de chrétien. Et ils se disent, non, je veux pas être, si c'est être chrétien, c'est être comme celui-là, je n'ai pas envie d'être comme celui-là. Là. Des fois, l'image qu'ils ont d'un chrétien, c'est de quelqu'un étroit dans sa manière de penser, rigide, sévère avec les autres ou quelque chose du genre. Mais en regardant les histoires bibliques de tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, Dieu a utilisé leur personnalité et leur talent, qui ils étaient, pour faire son œuvre. Il les enseigne dans le parcours, il les corrige, mais il n'attend pas qu'ils soient exactement comme telle personne ou telle personne. La Bible dit, oui, suis l'exemple de telle personne dans telle ou telle situation. Par exemple, Abraham dans sa foi, c'est un exemple à suivre. Ou David dans sa transparence avec Dieu. Oui, elle encourage à suivre l'exemple. Mais elle ne dit pas qu'on doit être l'autre personne, qu'on doit avoir les mêmes dents que l'autre personne, ou toujours réagir de la même manière que cette autre personne. Et Jésus a commenté sur le fait que sa façon d'être dérangeait les gens. À une occasion, il a dit, en Luc 7, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? À qui ressemble-t-il ? Il ressemble à des enfants assis sur la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami de collecteur d'impôts et des pêcheurs. Donc, dans son exemple, les enfants sur la place du marché jouaient un jeu, dans l'image qu'il racontait. Il y avait un groupe qui jouait de la flûte, des fois des morceaux joyeux, il attendait que l'autre groupe d'enfants danse. Et puis, s'il jouait un morceau triste, il attendait que les autres enfants il soit triste et puis il fasse une danse triste. Mais les autres enfants n'ont pas joué le jeu. Et de la même manière, les religieux espéraient que Jésus agisse d'une telle et telle manière, et espéraient que Jean-Baptiste agissait d'une telle autre manière, mais aucun des deux ne s'est conformé à ce qu'on espérait d'eux. Différents comme ils étaient l'un de l'autre, ils écoutaient ce que le Saint-Esprit leur demandait et puis ils obéissaient. Et Jésus termine ce passage en disant « Mais la sagesse de Dieu est reconnu comme juste par tous ceux qui l'acceptent. C'est la sagesse de Dieu que le parcours et la mission soient différentes pour chacun. C'est la sagesse de Dieu qu'on ne danse pas selon la mélodie que les autres veulent nous imposer, mais selon l'appel de Dieu et la mission donnée par le Saint-Esprit. Et cette sagesse est juste. C'est ce que Jésus voulait enseigner avec cet exemple. Au Brésil, on avait une femme appelée Sonia, d'à peu près 50 ans. Avant, elle s'habillait avec une de ses robes blanches pour aller danser dans des centres spirites et invoquer des esprits. Et quelqu'un lui a parlé de Jésus, a prié avec elle, l'a invitée et elle a commencé à suivre Jésus dans notre église. Au fil du temps, elle a été guérie de toutes ces blessures du passé qui l'avaient amenée aussi dans ce chemin. Elle avait été aussi guérie de la conséquence spirituelle de ce chemin aussi qu'elle avait choisi. Ses enfants ont rencontré Jésus après quelques années et beaucoup de prières et d'insistance d'elle avec Dieu. Son mari aussi a rencontré Jésus. Puis elle avait un don extraordinaire d'hospitalité, cette femme. Elle recevait les gens chez elle, elle les écoutait. Elle était femme au foyer, elle racontait ce que Jésus avait fait pour elle quand elle invitait les gens, et puis elle les invitait à venir au culte, tout simplement. Elle ne prenait jamais la parole devant. Elle n'avait pas un don de musique, d'évangélisation, c'était rien que les gens regarderaient et disaient « Waouh, regarde ce don fantastique !» C'était pas ce genre de don. C'était une femme très très simple. Et comme dans plusieurs églises de l'Armée du Salut, à Recife aussi, le côté musical était très encouragé. Fanfare, groupe de danse, groupe de louanges. Et un jour, elle s'est dit qu'elle voulait apprendre un instrument. Donc, je l'ai pris, elle a commencé à suivre des cours. Elle a vraiment répété dur jusqu'à ce qu'elle me dise « Ça y est, j'ai essayé, c'est ce que je voulais et je sais que ce n'est pas mon don. Je vais arrêter », elle a dit. Et puis, elle n'était absolument pas désolée d'arrêter. Elle était même encouragée par cette expérience. Peut-être qu'en tant qu'Église, on avait tellement mis en avant les dons musicaux qu'à un moment donné, elle a pensé, c'est ces dons-là qui comptent pour le plan de Dieu. Si on a passé cette idée, ce n'était pas notre intention, absolument pas. Mais si on a passé cette idée, on a eu vraiment tort. Parce qu'un jour, on a fait une liste de combien de personnes avaient rencontré Jésus grâce à cette Sonia et son don d'hospitalité. C'était quelque chose entre 10 et 15 personnes qui ont rencontré Jésus par cette femme, juste avec son don d'hospitalité et de recevoir des gens chez elle. 10 à 15 personnes. Je ne peux pas dire que mes musiciens étaient arrivés à ce niveau-là. Juste parce qu'elle avait accueilli ces personnes, elle leur avait parlé de ce qu'elle vivait avec Dieu, les avait invités à venir au culte comme elle était, et puis les gens ont commencé à cheminer avec Jésus. Et ce qui était vraiment positif de cette expérience, c'est qu'elle a pu confirmer « Je ne dois pas être comme tous les autres de cette église, qui ont presque tous des dons musicaux. Dieu veut m'utiliser comme je suis. » Et ça, c'est une compréhension très belle pour la suite de son parcours. Maintenant, Jésus faisait une différence très claire entre la personne magnifique créée par Dieu, que l'on est, et le mal et le péché qui est aussi dans notre vie. Il faisait une différence entre ces deux choses. Jésus, il faisait cette différence. Tu es l'image de Dieu, oui, mais il y a aussi le péché qui est dans ta vie et qu'on doit travailler ensemble pour le retirer. C'est comme un tableau de Rembrandt qui tout d'un coup est dans la boue. Je ne sais pas si vous aimez Rembrandt ou Picasso, si vous êtes plutôt moderne. Est-ce que si je la prends... Je prends ce tableau, est-ce que je dis, il y a plein de boue, il faut jeter ça? Absolument pas. Il y a quelque chose de précieux là-dedans, de grande valeur dans ce tableau. Il faut juste le nettoyer, l'envoyer chez un restaurateur pour qu'il soit de nouveau présentable. Je ne jette pas le tableau parce qu'il a plein de boue. Et Jésus regardait chaque personne comme ça. C'est comme avec la rencontre de cette femme adultère. Tout le monde l'a jugée, l'a jetée par terre, disait « elle doit mourir parce qu'elle a commis cet adultère » et puis ils sont prêts à le faire. Ils ont tellement de zèle pour Dieu qu'ils sont prêts à le faire. Et Jésus leur dit ça tout à la fin. Il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Il répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Jésus était en train de dire, tu es une œuvre d'art merveilleux. Oui, je veux enlever ce péché, mais tu es une personne de grande valeur. Tu es faite à l'image de Dieu. Je ne te condamne pas. Vas-y et ne pêche plus. C'était nettoyer la boue, seulement ça. La personne avait une grande valeur. Et Jésus regardait aussi la culture et le monde autour de lui avec cette même optique. Par exemple, il n'a pas critiqué le système d'impôts de Rome. Il y avait sûrement tout plein de saletés dans ce système administratif. Mais il y avait aussi quelque chose de bon dans la gestion d'un empire, et Jésus faisait la différence. Il doit avoir le péché là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de bon. Et puis, on sépare ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que Jésus attirait tellement les gens. Si les gens venaient vers lui, vraiment pour lui, ils n'avaient pas besoin d'avoir peur d'être rejetés. Jésus allait les accueillir tels qu'ils étaient. Jésus n'allait pas coller plein de panneaux d'interdiction tout partout. La personne allait plutôt grandir en discernement. Elle allait s'approcher de Jésus et puis allait se dire, waouh, cet homme appelé Jésus, il m'aime, il me choisit, il veut m'utiliser. Et en même temps, je remarque qu'il y a encore tellement de choses en moi qui doivent changer. Chaque fois que je m'approche de lui, je remarque, mais comment il a pu me choisir? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer encore là-dedans. Et puis, ça me donne envie de s'approcher encore plus de lui. Ça ne nous effraie pas, parce qu'il nous accepte là comme on est. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et ce prochain chant parle du désir qu'on a de s'approcher de lui, tout ce qu'il a fait pour nous. Mais avant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour cet homme extraordinaire que tu es. Pendant cette série, on veut être émerveillé par toi encore une fois. On veut te louer d'une nouvelle manière, on veut te découvrir d'une nouvelle manière, puis on veut t'adorer, Seigneur, comme le roi de notre vie, comme le Dieu créateur. Que cette adoration ne soit pas seulement dans les chants qu'on chante ici le dimanche matin, mais dans toute la semaine, dans un style de vie, Seigneur, qui t'adore pour toutes ces bonnes choses qui ont été créées, qui t'adore pour toutes les personnes qu'on rencontre, Seigneur, qui sont faites à ton image. Seigneur, qui t'adore pour notre propre vie et parce que tu nous acceptes, tu nous aimes, tu veux prendre notre personnalité, nos dons, nos talents et utiliser à ton service. Et en même temps, tu veux aussi, pendant qu'on marche avec toi, éliminer le péché, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer en nous. C'est merveilleux. Et puis on se réjouit de continuer à cheminer avec toi. Amen.